Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour remercier Frédéric et Anne-Lorraine pour leur invitation. Alors, après avoir plongé dans une œuvre singulière, je vous propose cette fois-ci un pas de recul pour poser plutôt la question des générations. La clé générationnelle, comme dit Michel Vinocq, grand historien de la revue, est une grille de lecture féconde qui permet de comprendre ce qui se joue dans la philosophie française dans les années 30. On a parlé d'une transition, d'une rupture, d'une continuité entre deux moments, moment de la philosophie, moment de l'esprit avec les figures de Bergson, de Brunswick et d'Alain, moment de l'existence à partir des années 30, mais surtout sur le devant de la scène philosophique à partir de 45, Sartre, de Beauvoir, Aron, Merleau-Ponty. Il ne s'agit pas pour moi de nier la fécondité de cette grille de lecture, mais plutôt lui rendre toute sa complexité en faisant de 1932 un événement transgénérationnel. Là encore, c'est Michel Vinocq qui a cette formule. On oublie assez souvent que les uns répondent aux autres et qu'au fond, les philosophes des années 1900 ont entendu les critiques qu'on a formulées à leur égard et y ont répondu. Et donc, je voudrais revenir sur cette idée d'une année, au fond, transgénérationnelle, à partir de deux idées fortes. D'une part, l'idée d'une rupture générationnelle ne s'impose pas du côté des philosophes des années 1930, mais elle se constitue progressivement. D'autre part, les philosophes des années 1900 entendent répondre aux critiques qui leur sont faites de nier le concret ou de nier l'histoire. Donc, premier point, l'idée selon laquelle la rupture générationnelle ne s'impose pas d'emblée comme une grille de lecture pour comprendre ce qui se vit à ce moment-là. Si on passe en 1926, la revue de Genève lance une grande enquête dans différents pays européens en se demandant ce que pense la jeunesse universitaire d'Europe. Il s'agit de les interroger sur l'art, l'action, et on leur demande s'ils ont le sentiment d'un conflit entre les générations, entre les plus jeunes et leurs aînés. Pour la France, sont Raymond Aron, Daniel Lagache et Georges Canguilhem qui sont amenés à formuler une réponse. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous trois neutralisent la question générationnelle. Pour eux, il n'y a pas de conflit entre les générations. Canguilhem a des formules assez fortes. Il dit « L'idée d'une querelle des générations est l'excuse majeure du penseur sans courage, de celui qui préfère évacuer les problèmes plutôt que de les assumer à nouveau frais. » Une autre formule intéressante, il dit « Je pense que si ce qu'on appelle génération qui vient a quelque chose à faire, c'est bien de tuer l'idée de génération. » Pourquoi cette position commune de neutralisation de la question générationnelle ? Il me semble que la remarque est toute simple, c'est que si certains penseurs se sont compromis dans la Première Guerre mondiale en tenant une posture belliciste ou nationaliste, tous n'ont pas marché. Et la référence commune, généralement, à ce moment-là, c'est Alain, Romain Rolland, Jean Jaurès ou encore Péguy. Tous ces auteurs, parmi tant d'autres, ont fait entendre une voix différente qui donne toute sa place aux philosophes des années 1900. Ce qui se joue plutôt, ce n'est pas un conflit générationnel, mais plutôt un programme. Il s'agit de renouveler le rationalisme en l'installant dans l'histoire et non plus au dehors de l'histoire, dans une position de surplomb. Les ennemis, ou les opposants en tout cas, ce sont les irrationalistes et les nationalistes, pas d'abord les philosophes spiritualistes. Il est clair qu'en 1932, la donne a changé. Et l'exemple le plus marquant qu'on retient le plus souvent, c'est les chiens de garde, c'est les chiens de garde de Paul Nizan, qui organise son pamphlet autour d'une triple opposition. Première opposition, c'est celle qui oppose pratique de la philosophie et intérêt pour l'actualité. Dès l'introduction, Nizan juxtapose des extraits des bulletins de la Société française de philosophie, qui sont évidemment sur des hauteurs qu'on peine à imaginer aujourd'hui, et d'autre part, des extraits de journaux qui, eux, disent les problèmes urgents en termes de salubrité des villes, de santé. Et le contraste est évidemment saisissant de philosophes qui manquent complètement leur temps. Je ne reviens pas dessus, mais Frédéric Worms a dit tout à l'heure, la critique de Nizan est tributaire du vocabulaire hérité par Julien Binda dans son essai 1927, La trahison des clercs, qui oppose le spirituel et le temporel, l'abstrait et le concret. On interroge ici le statut de la philosophie. Est-ce qu'elle doit se comprendre comme une activité essentiellement spirituelle ou est-ce qu'elle doit se rapporter au domaine du temporel ? Là où Binda préfère le spirituel, finalement, Nizan subvertit la position de Binda. La philosophie ne doit plus être une cléricature, elle doit se mêler au temporel. C'est ici que la première opposition, philosophie contre compréhension de l'actualité, se combine avec deux autres oppositions chez Nizan. D'une part, l'opposition des générations. Les jeunes sont trompés par les vieilles générations. Elle se combine, enfin, je laisserai cette distinction de côté, avec l'opposition du communisme de prolétariat et bourgeoisie. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les jeunes générations et vieilles générations. Au fond, les jeunes gens qui débutent en philosophie, c'est la formule de Nizan, sont les victimes d'une pratique de la philosophie marquée par une génération qui a choisi le ciel des idées plutôt que le monde terrestre, la bourgeoisie plutôt que le prolétariat. En ce sens, les vieilles générations ne sont pas seulement dupes d'une certaine pratique de la philosophie qui nous éloignerait du concret, qui nous conduirait toujours à l'abstraction, qu'elles imposeraient malgré elles aux jeunes gens. Elles sont, pour Nizan, responsables de l'entretien d'une illusion de la jeune génération. Donc la philosophie est ainsi comprise comme une entreprise de mystification qui conduit tantôt à délaisser le présent, tantôt à s'y opposer dans une perspective réactionnaire et bourgeoise. Donc non seulement les philosophes ont démissionné de leur tâche, mais bien plus ils trahissent. Le changement de ton, de 1926 à 1932, s'explique aisément. D'une part, des causes biographiques. Tous ces auteurs, la génération des années 30, est passée du statut d'étudiant au statut de professeur. Ils assument une toute autre place d'un point de vue institutionnel. Mais il y a des causes aussi historiques, causes économiques, sociales, politiques. Nizan, lui, insiste sur la pauvreté, le chômage, l'insalubrité des villes. Aron, en janvier 32, lui, va insister davantage sur la guerre, d'une formule très intéressante, parlant de la prochaine dernière guerre mondiale. Et en ce sens, c'est le pacifisme de la génération 1900, c'est la position politique de la génération 1900 qui est mise en doute. Toutefois, au même moment, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est vraiment en 1932 que se cristallisent les choses, la génération des aînés critiqués répond aux critiques qui lui sont adressées. Et donc c'est en ce sens que c'est vraiment un événement multigénérationnel et qu'il faut prendre en compte la réponse de ces auteurs-là. Deux points m'intéressent ici. D'une part, ils vont critiquer l'attrait du concret, on entend la critique discrète de Jean Val. D'autre part, ils interrogent le statut de l'écriture philosophique, en particulier autour de l'écriture de la guerre. Là, je m'appuie surtout, du fait de mes travaux, sur Alain et Brunswick. Je laisse de côté Bergson, même si le texte sur les deux sources de la morale et la religion écrit en 32 entre pleinement dans ces considérations-là. D'abord, la critique de l'attrait du concret. La formule « l'attrait du concret » vient d'un cours de Brunswick donné en 1932 à la Sorbonne qui s'appelle « Les âges de l'intelligence », publié en 1934. Et d'emblée, Brunswick appelle la jeune génération à faire bien attention à cet attrait du concret qui risquerait de leur faire manquer l'histoire. Pour lui, il s'agit là d'un quiproquo des générations. L'attrait des jeunes gens qui veulent découvrir le monde, qui veulent découvrir le concret, les empêchant de bien comprendre l'idéalisme des anciens. Brunswick oppose à la jeune génération deux arguments. Le premier, sur le terrain de la théorie, c'est que le concret n'est tel que par l'abstrait. On ne peut rien dire du concret si on ne part pas d'abord de concepts abstraits que la raison, que l'esprit ont forgé. Deuxième argument, plutôt sur le terrain, cette fois-ci, de l'histoire et de l'efficacité de l'action. En fait, dans l'histoire, dit Brunswick, ce n'est pas sur le terrain de l'activité concrète que l'humanité a réussi à se libérer des représentations collectives, de ses entraves. C'est au contraire en maniant des idées qui passent pour les plus abstraites, dont l'objet paraît, pour ainsi dire, insaisissable, qu'au fond, l'histoire a avancé. Donc au fond, le développement des sciences, le développement de la rationalité a une efficacité bien plus grande que les investissements militants pour Brunswick. Donc vous voyez qu'il insiste sur la complémentarité abstrait-concret. Le concret ne peut être pensé tel que par l'abstrait, tout en maintenant une certaine dissymétrie entre les deux. L'abstrait ne nous éloigne pas du concret, tandis que le concret, lui, ne nous conduira pas au jugement. S'il y a un attrait du concret, c'est parce qu'il occupe l'esprit, le déconcerte, fait valoir la certitude plutôt que l'analyse, le militantisme plutôt que la réflexion. Donc en ce sens, on pourrait dire que Brunswick retourne l'argument de Nizan. La volonté d'aller vers le concret et vers l'actualité est une forme de trahison. Elle répond, dit-il, à un conformisme sociologique, à une révolte individualiste qui n'a rien à voir avec la philosophie. Le dernier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est la question, la mise en question de l'écriture philosophique et de son statut. Et ici, je vais partir plutôt d'Alain sur comment dire la guerre. Évidemment, Brunswick comme Alain sont très critiqués pour leur position sur la guerre, à la fois la guerre passée, Brunswick la laisse complètement de côté, il a des textes très forts où il dit que finalement la Première Guerre mondiale n'a pas changé grand-chose à l'histoire de l'Europe au début du XXe siècle. Je vais vite hein, pour conseiller, mais il y a des formules très étonnantes. Et Alain, lui, manque la guerre qui vient au profit d'un pacifisme très, très combatif à l'égard de toute position belliciste. Pourtant, l'un et l'autre passent leur temps à réfléchir sur ce qu'est la guerre, la façon dont on peut l'écrire en philosophie. Chez Brunswick, la question apparaît surtout à partir des années 40, c'est les épreuves qu'il traverse. Elle est plus marquée chez Alain du fait de la célébrité de son texte « Mars ou la guerre jugée », écrit en 1921. Alors, il y a bien une ambiguïté du titre. Pour Alain, juger la guerre, ça ne veut pas dire se tenir dans une position de surplomb, c'est en faire l'expérience des passions pour apprendre à s'en détacher. Donc au fond, c'est une plongée dans la guerre qui permet de la juger. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Alain revient en permanence sur cet ouvrage. Dans les Libres Propos, là aussi une revue fondée au même moment qui est très intéressante, ces Libres Propos seront repris dans Convulsion de la force suite à Mars en 1939. Il écrit en 1935 un texte très étonnant, Mars refroidi. Avec cette idée, on reprend le débat de nouveau. Ses positions sur la guerre changent assez peu. Pour lui, c'est toujours les passions qui font la guerre, à la fois la colère, l'honneur et la mise en scène de ces passions par les institutions militaires en particulier. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt, il se demande comment on peut mieux dire l'expérience de la guerre. Ce qui l'amène à passer par d'autres genres littéraires. Il commence à écrire des souvenirs, Histoire de mes pensées en 1936, Souvenirs de guerre en 1937, des débuts de romans, il écrit un début de roman qui s'appelle Le Roi Pau, signe qu'au fond, l'écriture philosophique le laisse insatisfait ici. Ce qui compte ici pour lui, c'est la question du jugement. Dans un propos, dans un des Libres Propos de septembre 1932, il oppose essence et existence. Il y a d'un côté le réel, de l'autre les idéaux. Juger, c'est toujours combiner les deux, ne sacrifier ni l'abstrait ni le concret. On confond les deux si on prend le monde pour un système raisonnable qui vérifiera toujours nos idées. On devient au fond idéologue, on projette des idées sur le concret qu'on manque. Mais en retour, on manque le monde également si on se moque des valeurs, à l'indice de la géométrie, de la justice, et si l'on pose qu'il n'y a au monde que de l'inhumain. Donc la première confusion, c'est l'idéalisme ou l'utopie. La deuxième illusion, c'est le matérialisme ou le réalisme. Ce qui compte pour Alain, c'est au fond de rassembler les deux, respect aux idéaux, attention au concret. L'idée étant d'embrasser les deux par le regard. Dès lors, en 1932, il me semble qu'Alain pose une question décisive. De quelle lecture de l'actualité a besoin l'homme d'action? Et on retrouve ici des problématiques qu'on retrouvera dans la revue Esprit. Est-ce qu'il a besoin d'abord d'histoire ou plutôt de philosophie? Chez Alain, la distinction est très marquée. En se concentrant sur ce qui relève des idéaux, de l'essence, la justice, l'égalité, la charité, le philosophe se dégage de ce qui ne relève que de l'occasion et de l'incident. A l'inverse, et là je cite Alain, « L'homme qui aime la vérité et prend en charge de la dire quotidiennement porte dans son projet trop de choses et d'inégale valeur, les unes nécessaires, les autres libres, d'autres enfin éphémères. Ces dernières font courir le journaliste avec elles, car on se hâte de dire ce qui risque de n'être pas vrai longtemps. » En ce sens, Alain ne critique pas la tâche du commentaire de l'actualité, puisque l'exercice est essentiel pour juger, confronter l'entendement à l'événement. Mais il s'efforce de rappeler les limites du projet à vouloir comprendre son actualité. Pour conclure, je dirais que cette mise en relation des philosophes des années 1900 aux philosophes des années 1930 fait apparaître un espace problématique où la confrontation de deux générations devient au fait le nom d'un problème qui est celui de notre historicité, de notre inscription dans le temps historique. Le temps historique se constitue dans la tension entre deux présents, une sorte de présent en permanence double. D'un côté, le présent qui fait l'actualité, un présent qui procède du passé, et de l'autre, d'un présent qui, par la réflexion, pour Alain, pour Brunswick, permet de toucher à quelque chose d'éternel. On aurait donc un présent chronologique, un présent éternel, et tout le travail du commentaire de l'actualité revient à articuler ces différentes temporalités dans la constitution d'un temps véritablement historique. On voit là la proximité, il me semble, de ces débats avec la naissance de la revue Esprit, la proximité avec les thèses personnalistes, et par suite avec de nombreux auteurs de la revue Esprit, je pense à Landsberg, mais aussi à Ricoeur, qui reprendra toutes ces réflexions issues de Brunswick. Je vous remercie pour votre attention.